Bizarre, une prise de conscience, des défis, c'est la règle de trois de Sylvie Sandeau. Bizarre, ne fait rien comme tout le monde, une vraie sauvage. Ces qualificatifs ont jalonné mon enfance, écrit-elle dans son livre. Elle grandit dans un village de la Creuse, elle apprend à marcher avec difficulté, se révèle très maladroite, puis son entrée à l'école maternelle constitue un enfer. Elle décrit les récréations comme les pires moments de sa journée. Elle préfère s'isoler à cause des enfants bruyants et agités. Des petits monstres à propos desquels elle écrit « Je les trouvais laids, certains sentaient mauvais, je ne voulais pas qu'ils me touchent ». Sylvie Sandeau aime reproduire des mélodies sur son piano et la compagnie des chats. Souvent fatiguée, victime de troubles alimentaires, elle est envoyée par ses parents chez un spécialiste qui lui dit « Quelques signes de nervosité, faut pas vous inquiéter, ça finira par passer ». Au collège, au lycée, elle a toujours beaucoup de mal à sociabiliser, subit des épisodes de dépression et finit par obtenir un diplôme de secrétaire trilingue. Elle se marie, vit un temps en Angleterre, donne naissance à un premier enfant. Lorsque son compagnon est muté dans une grande ville française, ses troubles s'aggravent, elle ne pèse plus que 40 kilos et précise-t-elle « Ma maniaquerie concernant l'ordre et l'hygiène à la maison avait pris des proportions inquiétantes ». La prise de conscience intervient plus tard, après plusieurs déménagements, changements de travail et l'arrivée d'un troisième enfant. Elle s'aperçoit que son fils se comporte comme l'un de ses camarades, diagnostiqué autiste Asperger. Elle découvre le blog et les vidéos de Julie Daché, autrice de La différence invisible et Dans ta bulle.
On ne devient pas autiste, on est autiste. Et on n'en guérit pas. Il y a certains symptômes qui peuvent s'accentuer, d'autres qui peuvent s'atténuer. On peut vivre avec son autisme, on peut devenir autonome, etc. Mais par contre, on n'en guérit pas.
Une pédopsychiatre confirme alors que son fils présente des symptômes de l'autisme. À son tour, le 28 janvier 2020, elle est diagnostiquée autiste de type Asperger. Dans son livre, elle évoque les défis auxquels elle est toujours confrontée au quotidien. L'épuisement, l'anxiété, la colère, la solitude. Mais elle évoque aussi les comportements qui améliorent sa qualité de vie avant de conclure. Je finis par me dire que l'autisme recèle des forces étonnantes en dépit des souffrances qu'il inflige.
Alors Sylvie Sandeau, l'autisme est quelque chose d'assez mal connu, il y a souvent des clichés, une méconnaissance du grand public, et puis ça peut prendre des formes ou des définitions très différentes d'ailleurs. Vous êtes donc diagnostiqué syndrome Asperger, autiste dite en haut du spectre, à haut potentiel intellectuel, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, que cette définition, et comment ça se traduit? Quelle forme ça prend?
Alors, il existe effectivement diverses formes d'autisme, mais il faut savoir qu'à la base, le fonctionnement est le même pour toutes les personnes. Différence de fonctionnement, on va parler de différence de fonctionnement au niveau des perceptions, au niveau de la sensorialité, au niveau de la cognition. Et on retrouve ça chez toutes les personnes autistes. Mais après, il y a effectivement diverses manifestations. Donc il y a des personnes chez lesquelles on va trouver une déficience intellectuelle. Il y a des personnes chez lesquelles il va y avoir un gros problème au niveau du langage fonctionnel. Certaines personnes n'ont pas accès au langage du tout, ce qui ne veut pas dire pour autant d'ailleurs qu'il y a déficience intellectuelle. Il y a des personnes chez lesquelles il n'y a rien de tout ça et qui peuvent même avoir des capacités intellectuelles un petit peu supérieures à la norme. Mais le fonctionnement, en tout cas, lui, reste identique. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de spectre. Et le terme Asperger est voué à disparaître. A même disparu depuis très peu, puisqu'il ne figure plus dans la CIM 11 actuellement.
Et vous, ça s'est traduit par quels symptômes, notamment au cours de votre enfance, dont parlait Gaëlle Legras dans le sujet à l'instant, et ensuite?
Alors, dans mon enfance, il y avait beaucoup de signes, mais ces signes n'ont jamais été décelés. D'une part, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Puis je pense que même aujourd'hui, c'est assez difficile. La preuve, c'est que mon fils est passé lui aussi à travers les mailles, comme on dit. Il y a une grave méconnaissance de l'autisme. Je souligne au passage que les médecins ne sont pas formés à l'autisme dans leur cursus universitaire, ce qui me semble grave. Et même les gens ont des difficultés à repérer à cause de cette méconnaissance et des préjugés dont on parlait tout à l'heure. Pourtant, les signes étaient là. Alors, en ce qui me concerne, il y avait déjà des problèmes de socialisation, comme vous le montriez tout à l'heure dans la cour de récréation, qui était pour moi un enfer. Il y avait des problèmes quand on est à des fêtes de famille et quand les gens commençaient à chahuter un petit peu et chanter. Et moi, je pleurais et il fallait me ramener quelquefois parce que j'étais vraiment dans un état de panique. Il y avait des problèmes au niveau du comportement. Je n'aimais pas du tout jouer avec les autres enfants, même quand mes parents me forçaient à avoir des petites copines à la maison. Je cachais mes jouets parce que je voulais tout le temps qu'ils soient bien rangés et qu'on ne les touche pas, qu'on ne les bouscule pas, et leur jeu me heurtait. Et il y avait aussi beaucoup de problèmes au niveau de la, donc des perceptions, la difficulté à supporter les lumières, les bruits. Et en particulier, pour moi, c'était le toucher. Mm-hmm. Je n'aimais pas du tout qu'on m'embrasse, je n'aimais pas du tout qu'on me prenne dans les bras. Mm-hmm. On ne pouvait pas me donner de bain parce que je hurlais, c'était très compliqué. Les odeurs aussi, c'est assez complexe aussi. Et puis les problèmes alimentaires, les problèmes de sélectivité alimentaire que j'ai retrouvés chez mon fils après.
Donc le diagnostic a été assez tardif, hein, je crois. Quelle année exactement vous avez pu...
Alors j'ai commencé à deviner de quoi il s'agissait aux alentours de 2017-2018.
C'est ça.
Et ensuite le temps d'établir un diagnostic pour mon fils en priorité, parce que vu son âge, ça me semblait plus important s'il devait y avoir des prises en charge derrière. Moi c'était un peu tard, mais par curiosité j'ai voulu aller plus loin et j'ai obtenu le diagnostic vraiment très officiel en janvier 2020.
Et justement, une fois que vous avez fait ce diagnostic, est-ce que ça vous a permis de dépasser les difficultés du quotidien, justement, parce que vous aviez mis un nom sur ce handicap ?
Alors, en ce qui me concerne, étant donné mon âge, j'avais quand même déjà mis en place pas mal de stratégies, mais sans savoir de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir dans le livre, j'ai déjà développé des démarches de développement personnel pour la gestion du stress, la gestion des émotions qui me faisaient défaut. Après, en ce qui concerne les problèmes de socialisation, de communication, je n'ai pas grand-chose à faire. Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Et l'annonce du diagnostic, par contre, a été vraiment un très grand choc. Et c'est seulement dans un second temps que j'ai pu faire ce travail qui m'a permis d'écrire d'ailleurs. Et puis peut-être que écrire m'a permis de faire le travail aussi. Mais dans un premier temps, j'étais surtout très, très, très en colère. Extrêmement en colère que des troubles comme ça, avec les difficultés que ça va entraîner, puissent passer inaperçus pendant si longtemps et que même au cours du diagnostic, ce soit si difficile de l'obtenir et que même après, ce soit difficile aussi parce que lorsque vous dites à quelqu'un « je suis autiste », on vous répond « non, t'as pas l'air ». Et c'est choquant.
Précisément sur le diagnostic, dans les centres de diagnostic de l'autisme, les demandes explosent depuis quelques temps, Nadia.
Oui, et notamment des demandes de la part d'adultes. Hein, vous le disiez, il y a un problème de formation des professionnels. Ce phénomène-là, il est relativement récent. Il a évidemment des conséquences très concrètes. En l'occurrence, dans l'un des centres qui se situe en Ile-de-France, il y en a quelques-uns. Le délai pour un premier rendez-vous, il peut attendre 6 mois. Dans un centre dans le nord de la France, près de Lille, ça grimpe jusqu'à 3 ans d'attente. 3 ans pour obtenir ne serait-ce qu'un premier rendez-vous. Il y en a beaucoup d'autres après. Il y a un responsable sur place qui a expliqué dans le journal Le Parisien qu'il suffit qu'il y ait un reportage à la télé, et c'est très bien d'ailleurs qu'on en parle, pour que le lendemain, le standard explose. Une professionnelle d'un de ces lieux dit aussi cette phrase-là, on passe notre temps à recevoir des gens qui ne sont pas autistes mais qui sont persuadés de l'être, notamment parce qu'ils ont vu des choses sur Internet ou fait des questionnaires en ligne sur Internet, comme il en existe. Quel conseil vous donneriez à une personne adulte, adolescente, qui se pose des questions, qui cherche des réponses, qui a du mal à trouver un rendez-vous, qui a du mal à trouver un professionnel, et pour qui, évidemment, oui, les tests en ligne, c'est insuffisant.
Oui, c'est vrai que c'est très complexe, parce que, déjà, c'est un trouble qui doit exister depuis la petite enfance. Donc, il faut bien différencier avec d'autres troubles qui peuvent avoir des ressemblances, mais qui surgissent par rapport à des événements extérieurs. Mmh. Et c'est vrai qu'on peut confondre, tout à fait. Maintenant, je pense que seul un professionnel réellement formé peut donner son avis. Il n'est pas question de s'auto-diagnostiquer, à mon avis, mais c'est quand même une première démarche qui est indispensable aussi, parce que si on ne le fait pas, personne ne va venir nous chercher. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus éliminer cette démarche-là. Après, le conseil, c'est renseignez-vous pour, si vous allez en libéral, renseignez-vous pour savoir quels sont les professionnels formés. Ouais. Qui connaissent ces troubles. Et après, les CRA, effectivement, les délais d'attente
les centres
sont tellement longs qu'il peut se passer beaucoup de choses.
Et comment expliquez-vous, Sylvie Sandeau, que ce soit aussi mal et en tout cas moins bien dépisté, moins bien diagnostiqué chez les femmes que chez les hommes? Pourquoi c'est moins diagnostiqué chez les femmes?
Alors, ce n'est pas moi qui l'explique, mais j'ai fait des recherches à ce sujet et il semblerait que les caractéristiques chez les femmes soient un petit peu plus... légère, un petit peu moins visible que chez les hommes, particulièrement leur capacité à entrer en relation avec les autres, qui serait un petit peu plus simple, capacité à communiquer. On retrouve ça dans la population en général aussi d'ailleurs. Les femmes sont souvent plus communicantes. Au niveau aussi de la manifestation de l'anxiété, les femmes sont plutôt en intériorité, internalisent leurs émotions, alors que les hommes auraient peut-être plus tendance à manifester de l'extérieur. Il y a quelques explications de ce genre, et en particulier aussi le camouflage, c'est-à-dire les capacités des femmes à jouer des rôles et à faire semblant que tout va bien, et à copier, à imiter, à observer et à reproduire un comportement qui semble normal.
Et elles sont aussi, et c'est heureux, souvent plus souriantes, comme vous l'écrivez. En tout cas, merci Sylvie Sandeau d'être venue partager avec vous votre témoignage qu'il faut lire. Donc, celle qui souriait trop pour être autiste, c'est votre témoignage aux éditions Tchou. Merci à vous.
Merci à vous pour me laisser ce temps d'expression.
Merci beaucoup.